Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'où vient notre assiette. On pourrait parler de l'invention de la porcelaine en Chine, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser non pas sur l'objet, mais sur ce que contient notre assiette. Dans une précédente émission, nous avions évoqué que les forêts sur le pourtour équatorial étaient peuplées d'environ 600 espèces d'arbres à l'hectare, tandis que nos forêts européennes en abritent moins d'une vingtaine. Visiblement, nos contrées ne sont pas source de biodiversité, en tout cas en ce qui concerne les arbres. Sauf que, dans notre assiette, les diététiciens nous recommandent de la diversité, et de la diversité il y en a. Tomates, poivrons, pommes de terre, haricots, bananes pour certains, cacao et café pour d'autres, maïs, blé, courgettes, aubergines, cerises, abricots, pommes. Origine France, Martinique ou Côte d'Ivoire, tel qu'étiqueté dans les rayons du supermarché ou du marché. Sauf qu'aucun de ces végétaux ne pousse naturellement dans nos contrées. Ils ont été apportés par les flux migratoires, des flux migratoires qui apportent de la diversité dans nos assiettes, mais pas que. Allez, commençons par quelques plantes qui ne poussent pas en France, en tout cas pas en métropole. D'où vient la banane? Cette plante herbacée, qui n'est donc pas un arbre mais une herbe, nous vient de par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce territoire au nord de l'Australie, à la limite entre l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. De là, les navigateurs, un millénaire avant notre ère, l'ont propagée dans le reste de la région et jusqu'en Inde. Elle se diffuse ensuite vers le Moyen-Orient et la Méditerranée autour du 8e siècle, sous l'hégémonie musulmane. Ce n'est qu'au 16e siècle que les Européens l'introduiront dans les Amériques. Maintenant, on la trouve un peu partout, autour de l'équateur et même parfois en France, dans nos jardins, sans toutefois donner des bananes. La canne à sucre aura fait à peu près le même voyage de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux zones tropicales au fil des migrations des habitants. Toujours dans les fruits exotiques que nous consommons le plus, parlons du cacao. Le cacaoyer poussait naturellement, en association avec des légumineuses, dans les zones équatoriales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il commence à être cultivé par l'homme au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les Européens, à partir du 17e siècle, en généralisent la culture en Amérique du Sud, puis au 19e siècle, on le plante sur les autres continents, en Afrique comme en Asie. Quant à la drogue la plus consommée au monde, le café, son origine est plus floue. Une des hypothèses pointe une origine de la région de Kaffa en Éthiopie, où il est consommé depuis la préhistoire. On associe aussi parfois son origine au Yémen ou à l'Asie. Toujours est-il qu'il se retrouve désormais dans toutes les régions tropicales, poussées par les migrations successives, puis le commerce international et l'agro-industrie. Mais intéressons-nous désormais aux plantes de nos jardins, celles qui poussent dans les bons potagers de France et de Navarre. On peut déjà écarter pommes de terre, tomates, haricots de toutes sortes, courgettes, courges, potirons, maïs, poivrons, qui, eux, sont origine d'Amérique et ne viendront en Europe qu'à partir de la Renaissance. L'aubergine est d'origine asiatique et sa propagation à l'ouest sera faite par les Arabes. Elle est cultivée dans l'Espagne médiévale et progressivement autour du bassin méditerranéen, mais le mot aubergine n'apparaît en français qu'en 1750. Le melon, lui, nous vient d'Afrique intertropicale. Il était cultivé en Égypte au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis a été emmené en Europe par les Romains un siècle plus tard. Au départ, il est plutôt consommé comme un légume, poivré, vinaigré, avant de devenir un fruit bien sucré. Quant à la pastèque, elle nous vient d'Afrique australe, le sud de l'Afrique, où elles poussent encore spontanément. Les sélections successives en ont fait un gros fruit légèrement sucré, mais elle est initialement plutôt amère. Et pour finir, le concombre provient, lui, du nord de l'Inde. La litanie est longue, l'échalote est originaire de la région d'Ascalon au Moyen-Orient et fut introduite avec succès en Europe par les croisés. L'épinard vient d'Asie mineure, la laitue pousse au Kurdistan et les lentilles viennent de Syrie et d'Iran. En hiver, nous délectons de mâches originaires d'Égypte, cultivées depuis la Renaissance seulement. Et si facile et si rapide à produire, le radis est parti d'Asie mineure. Nous avons parlé de quelques produits exotiques, nous avons aussi regardé dans notre potager qui finalement n'est pas si local que ça. Maintenant, faisons un tour au verger. De par les voies commerciales antiques, les pommiers venus d'Asie sont arrivés aux alentours de la mer Noire vers 100 avant Jésus-Christ, puis les conquêtes grecques et romaines les ont apportés en Europe. Prunes et abricots proviennent respectivement d'Asie mineure et d'Asie centrale. En d'autres termes, la prune vient de la Turquie et de la Perse, l'abricot vient des montagnes autour du Kazakhstan, tout comme les amandiers et les pistachiers. Quant aux pêchers, ils nous viennent de Chine, tout comme le kiwi qui puise ses origines le long du Yangtze-Kiang. Enfin, les citronniers nous viennent du Cachemire entre Chine et Inde, alors que les pamplemousses et oranges poussaient en Asie du Sud-Est. Après avoir parlé du potager, du verger, il nous reste à parler des champs. Champs de blé. Le blé, lui, nous vient des steppes du Moyen-Orient. C'est initialement un hybride spontané de graminées sauvages qui existait déjà il y a 500 000 ans, qui a ensuite été amélioré par l'homme il y a 10 000 ans, quand l'agriculture est apparue dans le croissant fertile. Il y a 5 000 ans, on le retrouve en Égypte, puis tout autour du bassin méditerranéen. Il ne sera introduit au Nouveau Monde qu'au XVIe siècle. Quant au maïs, lui, il nous vient du Mexique. Domestiqué il y a 9000 ans, il n'arrivera en Europe qu'après l'invasion des Occidentaux au XVIe siècle. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de ces légumes et fruits aujourd'hui? Pour l'aspect politique, on pourrait juste rappeler que notre alimentation, notre culture, c'est le résultat de migrations, des migrations pas si inutiles que cela au final. Et sur un plan politique, mais surtout écologique, il se trouve que notre nourriture se base sur un nombre extrêmement restreint de variétés. Avec le dérèglement climatique, les maladies, les ravageurs, etc. sont amenés à évoluer extrêmement rapidement, notamment sur des plantes affaiblies par les manques d'eau, les inondations, les vagues de froid, de chaud, l'humidité et la sécheresse qui s'enchaînent comme jamais. Or, un être vivant robuste est un être vivant qui possède une variété génomique importante, des réserves de gènes dans lesquelles il peut puiser pour faire face et s'adapter. Sauf que cette réserve, elle n'est pas ici, mais dans les zones à forte biodiversité, celles d'où viennent nos plantes, zones équatoriales et tropicales principalement. Alors, autant bien s'entendre avec les populations de ces régions qui pourraient nous aider à ne pas crier famine ou qui pourraient un jour peut-être nous accueillir à bras ouverts comme nous le faisons aujourd'hui en les attirant avec nos modes de vie gadgets, un accueil avec force barbelée, milices, drones de surveillance et insultes.
Vous n'aviez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y chercher un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en est rêvant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant.
Toujours sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants. Aujourd'hui, nous parlons de fruits, de légumes, mais surtout de migration. Dans la première partie, on a vu que notre potager, notre verger et nos champs sont largement peuplés d'espèces provenant de Chine, d'Amérique ou d'Afrique. Mais du coup, qu'est-ce qui vient de chez nous? Demande l'instituteur. Chez nous? C'est chez qui? C'est où? Serais-je tenté de répondre. Car nous, humains, nous venons du fond des âges, d'Afrique de l'Est, et comme pour tous les êtres vivants, nous avons besoin de diversité pour enrichir notre patrimoine génétique et ne pas péricliter. L'être humain, mais la nature en général, n'est pas le résultat d'une évolution figée. La vie est un élément de la nature qui est en perpétuelle évolution aux frontières mouvantes, arc-boutées par les dépendances entre espèces, une nature qui d'ailleurs s'effondrerait dès lors qu'il n'y aurait plus cette dynamique d'évolution. De même, un territoire est en perpétuelle évolution, de par les migrations de plantes, des animaux, la prépondérance temporaire de certaines espèces, l'extinction d'autres. Mais ces dynamiques sont lentes. L'homme, une espèce nouvelle, est venu accélérer cette dynamique pour le meilleur comme pour le pire. Car si le vivant évolue, la sélection naturelle a besoin d'un minimum de stabilité. Une stabilité que nous avons perturbée avec l'introduction de l'agriculture il y a seulement 10 000 ans, mais surtout avec l'agriculture industrielle, ses méthodes dévastatrices et ses poisons qui tuent toute forme de vivant. Toujours est-il que la question est toujours en suspens, question que nous pouvons néanmoins reformuler. Qui y avait-il à manger ici avant l'agriculture? Avant que les Romains et autres amènent le blé, les pommes, les cerises, le maïs, les pommes de terre? Bon, alors, qu'est-ce qui vient de chez nous et qui est stabilisé en France depuis longtemps? La châtaigne? Ça semble être un arbre rustique, bien de chez nous, ça. Gagné ou perdu? La réponse n'est pas si simple. Il nous vient de Transcaucasie, l'Arménie et la Perse. Le marronnier migre naturellement suite au réchauffement climatique après les dernières glaciations. Et il trouve des zones favorisant son développement dans le centre de la France, par exemple, en Italie. On va donc en forêt ramasser ces châtaignes sauvages. D'un autre côté, la culture du châtaignier naît autour du 6e siècle avant Jésus-Christ en Transcaucasie. Sa culture s'est ensuite propagée à la Grèce avant de s'étendre au reste de l'Europe, l'Italie, la France, le Portugal, sous l'impulsion des Romains a priori. Bon, alors, qu'est-ce qui vient de chez nous ? Au Moyen-Âge, les endives, les choux de Bruxelles, les betteraves, la chicorée n'avaient pas encore été acclimatées ou bien sélectionnées. Par contre, on mange de l'ail, de la ciboulette, des échalotes et des oignons, quoique ces deux derniers viennent d'Orient et d'Asie. L'artichaut, lui, vient du monde méditerranéen. Quant à l'asperge, elle est réservée aux tables nobles. La carotte est aussi consommée, quoique plutôt jaune, longue et ligneuse. Mais elle vient d'Afghanistan. Par contre, le panais, lui, vient du bassin méditerranéen, tout comme le céleri qui semble provenir d'Italie. S'il y a des plantes bien d'ici, de chez nous, ce sont les champignons, qui sont principalement cueillis en forêt, et les choux qui poussaient naturellement sur les façades océaniques. Enfin, le cresson, cultivé récemment, il est surtout cueilli depuis l'Antiquité. Le fenouil, connu dès l'Antiquité, est surtout cultivé en Italie. Son usage est ensuite étendu à toute l'Europe suite à sa culture par les moines bénédictins. Les pois et les pois chiches, eux, viennent d'un peu partout pour le premier et de Méditerranée plus exactement pour les pois chiches. Parmi les légumes un peu oubliés, on notera aussi les aroches, une sorte d'épinard, le masseron, dont on utilisait les racines charnues, crues ou cuites, ainsi que les jeunes pousses, les pétioles et les feuilles, tout comme le céleri et les jeunes inflorescences. La mauve, une grande fleur à longue tige, pouvait atteindre 1,50 m et était consommée crue ou bouillie. Il paraît que la salade de mauve était la préférée de Charlemagne. Une autre fleur largement consommée, la rose, mais elle est l'origine de Perse. Ah, par contre, il semble que la mûre, la myrtille, la fraise des bois ou encore la framboise, l'érelle, soient originaires de nos contrées. Tout comme le néflier, l'arbousier et l'argousier, la cornouille, le coing et les noisettes. Les hommes habitant nos contrées pouvaient aussi trouver de la vigne sauvage, la groseille, l'églantier, le sureau et le cassis. On notera que notre assiette est largement étrangère. Pour ce qui nous concerne, en France, trois périodes majeures ont structuré nos potagers, mais aussi nos vergers, nos forêts et nos champs, bref, notre paysage. Le premier d'entre eux, l'Empire grec et romain qui brasse autour de la Méditerranée. Ensuite, le monde arabe qui a largement contribué aux innovations techniques et a connecté l'Asie, l'Inde, l'Orient et l'Europe. Enfin, Christophe Colomb et ses successeurs esclavagistes qui ont brassé pour le pire des peuples et pour le meilleur des plantes entre l'Europe, les Amériques et l'Afrique. À l'heure où il est question d'avoir peur des étrangers, c'est quand même cocasse de voir que les migrations fondent notre capacité à trouver de quoi manger en abondance, en tout cas ici en France. On veut du
green. Rubrique greenwashing.
Pour cette rubrique, je vous propose exceptionnellement de la laisser à Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, co-présidente du groupe 1 du GIEC.
Sauf erreur de ma part, la présidente du Rassemblement national n'avait pas voté au Parlement européen l'accord de Paris sur le climat. Et je rappelle que dans le monde, il n'y a que trois pays qui ne l'ont pas ratifié, l'Iran, la Libye et le Yémen. Et quand je regarde le programme du Rassemblement national qui aborde les questions d'écologie, j'y vois une imposture. Première imposture, se prétendent défendre l'indépendance et la souveraineté tout en proposant des mesures qui vont acter une plus lourde dépendance à l'approvisionnement en énergie fossile, notamment en pétrole et en gaz, et donc une dépendance par rapport à d'autres puissances qui, on l'a vu avec la Russie, ne nous sont pas favorables. Et puis, par ailleurs, une deuxième imposture qui est de prétendre protéger les personnes, sachant que ne pas agir par rapport au changement climatique, que ce soit sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou l'anticipation pour l'adaptation, la gestion de risque, eh bien, c'est un énorme facteur d'inégalité. C'est la pire action à mener pour protéger les plus fragiles. Et la dernière chose, c'est pour un parti qui prétend mettre en avant la transmission, eh bien, ignorer les enjeux de protection, de transmission des écosystèmes, c'est une forme de patrimoine aussi. Ne rien proposer pour le faire, quand on voit les questions posées sur les coraux, sur les forêts, sur les glaciers, sur le littoral avec la montée du niveau de la mer, finalement, c'est se mettre la tête dans le sable. C'est du déni, non pas nécessairement du problème, mais du constat scientifique de la capacité à agir des leviers d'action. Et il y a une chose qui est certaine avec le changement climatique, si on se met la tête dans le sable, les problèmes ne se résoudront pas, ils risquent d'être beaucoup plus difficiles à gérer.
N'écoutons pas les Khmers verts et les prédicateurs à lampe à huile.
T'as lu Le Monde, Le Figaro ?
Ouais.
T'as lu L'Équipe, t'as lu Le Métro. Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
C'était Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdescroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.